affabulé.
C'est ça. Affabulé. Affabulé.
Deux F.
Wakarimasu, Jan.
Sounds like they were very happy.
Yes, they were.
もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。
Bonjour à toutes, bonjour à tous d'étoiles plein les yeux, c'est votre émission de cinéma sur Transistor et cette semaine il sera question du nouveau film de Paolo Sorrentino, Silvio et les autres où l'on va partir à la rencontre d'un personnage qui ressemble bien à un chef d'état italien que nous avons connu ces dernières années. Puis on ira du côté du festival Interférence qui s'ouvre en ce moment à Lyon. On terminera enfin avec quelques conseils de sortie cinéma pour la semaine. Bref, notre toile cette semaine, c'est Silvio et les autres. Et les yeux, ce sont ceux de Maë et Occitane. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
L'angelo della notte. Io conosco il copione della vita.
E il mio ruolo politico?
Semplice.
Convincere sei senatori. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.
Tutto è così patetico, presidente.
Alors on a laissé la bande-annonce un peu longtemps parce qu'il faut sentir qu'il va y avoir du bling-bling jusqu'à plus soif dans ce film qui tourne donc autour de Silvio Berlusconi qui ne sera d'ailleurs jamais nommé pendant le film. Alors ce personnage, on va l'approcher très lentement, on met 40 minutes à le voir apparaître à l'écran mais il est dans son nom et dans toutes les bouches. Et puis donc le voilà qui apparaît et tout tourne autour de la fascination autour de ce personnage pendant les 2h38 que dure ce film. Alors qu'est-ce que vous en avez retiré de ces 2h38, Occitane, Maë?
Alors hier soir, en sortant du cinéma, j'étais perdue loin, très loin en dehors de moi-même et pourtant je me sentais incroyablement lucide. Il faisait froid, je marchais à pas lents, le goudron était humide et je savais que ça prendrait le temps qu'il faudrait, mais je ne rentrerai pas chez moi avant d'avoir mis des mots sur tout ça. Silvio et les autres, ce n'est qu'un film, 2h38 d'images et de musique, de répliques et de bruit, de silence, juste un film avec un scénario. Alors Rémi, tu t'es demandé à voix haute lorsqu'on est sorti, où était Sorrentino dans tout ça ? Où était-il ? Et le personnage de Berlusconi, et moi, et les autres, où étions-nous ? Ma réponse est « partout ». Silvio, dans ce film, ce n'est pas Tony Servillo, c'est aussi son épouse, les jeunes femmes en bikini, ses rivaux, ses amis serviles. Ce film ne sépare pas la chair de l'intellect, le grotesque, la mélancolie, la jeunesse dévergondée ou celle un peu perdue, la vieillesse, la frivolité et le sérieux. Ce film est tout cela à la fois, la prétention, la finesse, l'humilité, la lourdeur, le lieu commun et la trouvaille esthétique, le bruit et le silence. Il ne nous prive d'eux, ni ne nous épargne rien. Il dit tout et ne dit rien. Au fond, ces 2h38, ce sont 2h38 de vide. Vide non pas d'images, d'histoires, d'événements ou encore moins de mots, mais vide de jugements, vide de théories existentielles. C'est un trop-plein qui provoque le néant. Et si mélancolie il y a, c'est celle du spectateur qui contemple la vie dans une salle obscure, qui voit tout mais n'est réellement atteint par rien. Peut-être précisément parce que la caméra de Sorrentino se refuse à hiérarchiser les choses, elle semble toucher du doigt une forme de vérité. Voilà ce que j'en ai à dire.
Alors voilà, petit texte écrit juste en sortie de salle, semble-t-il. Occitane, 2h38 de vide.
Moi j'aurais dit 2h38 d'une espèce de montagne russe un peu étonnante. Enfin, en fait, je suis de celles qui défendent Sorrentino, d'habitude. C'est-à-dire que...
Je crois qu'on l'est tous les trois.
L'est tous les trois, c'est-à-dire Sorrentino qui s'était pris le feu de la critique avec La Grande et Bellezza, que j'avais trouvé exceptionnel. Enfin, cette espèce de parcours proustien dans Rome, avec ce vieil homme mélancolique joué là aussi par Tony Servillo. Et du coup, j'avais une espèce de... de désir secret d'avoir une espèce de suite en fait à La Grande et Belle et ça. Et là, j'ai l'impression qu'avec ce film, on est arrivé au bout de quelque chose, enfin au bout de son modèle baroque ultra kitsch, enfin kitsch mais au sens plein du terme et au sens historique du terme.
Félinien.
Félinien, mais félinien avec le numérique par-dessus.
Période
8,5
avec.
Et oui, enfin, je veux dire, c'est ces animaux en image de synthèse, c'est ce symbolisme lourdingue, ces explosions à la Zabriskie Point, mais enfin, tout était là, mais ça n'était en même temps que là pour une espèce de décorum qui avait ni queue ni tête selon moi et qui était justement là. On a franchi un cap, c'est-à-dire trop léché avec ces images jaunes, avec cette impression de déjà vu, mais qui n'impressionne plus.
Ça n'impressionne plus, donc ça fait flop.
Bah hélas, j'ai envie de dire que oui, ça fait flop.
Bah alors, pour l'instant, pas pour moi, par chance, mais je suis d'accord lorsque tu dis qu'on atteint vraiment une espèce de... Je sais pas, faut pas parler d'aboutissement, mais c'est vraiment qu'on atteint une espèce de point de non-retour dans le système Sorrentino. On a sur tous les aspects qui ont toujours fait un petit peu de son cinéma, ces personnages vieillissants qui filment depuis des années, là on atteint vraiment le personnage vieillissant qui ne réussit pas à s'en sortir, moralement du moins lui, alors que le Tony Servillo, le Jeb Gambardella de La Grande Bellezza, réussissait à avoir cette espèce d'apothéose à la fin, et là vraiment le film est construit comme une espèce de décrescendo de ce grandiose, de ce faste. Et enchâssé dans deux scènes qui sont alors là aussi gadgets mais très très éloquentes du système. On ouvre la scène avec un mouton en image de synthèse qui s'effondre en regardant les jeux télévisés à la Berlusconi. Donc vraiment cette Italie de pacotille dont le creux finit par jaillir comme ça, mais dès les premières images du film, et à l'inverse, le film qui se termine sur la vieille Italie regardant descendre un Christ des décombres de l'Aquila après le tremblement de terre, et avec aussi la charge qu'a cet épisode dans la vie politique italienne, et donc cette Italie mourante qui disparaît dans ses décombres en fin de film comme une espèce de rappel, mais du coup la chronologie est complètement inversée et déjà on est dans une espèce de jeu avec le réel.
Oui, c'est ça, on a l'impression d'être pendant tout le film dans un parc d'attractions construit par Berlusconi, on sait pas où on sait pas si on n'est pas dans sa tête, parce que espèce de villa de vacances insensée qui correspond étrangement avec la description qu'il fait de son parc immobilier rêvé quand il se réentraîne à arnaquer la ménagère au téléphone. Et on a l'impression d'un coup, quand on arrive dans ces décombres, justement, cette espèce de révélation christique, limite, voilà.
Et en même temps, ça fait flop avec le volcan qui... Enfin, une espèce de séquence d'impuissance assez ridicule avec ce volcan qui est pouf dans le silence et puis il se passe plus rien.
Et puis cette conversation interminable avec sa femme qui ressemble... Alors au début je me suis dit, ça part en telenovela, je ne sais pas, une espèce de série à la Berlusconi. Et puis en fait, ça devient mortellement sérieux de plus en plus. Et là j'étais de plus en plus à m'enfoncer dans un malaise terrible où je me disais, mais est-ce que c'est une vraie conversation? Est-ce que ce n'est pas une vraie conversation? Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est un vrai film? Je ne sais plus du tout où j'en étais à ce niveau-là. Surtout, oui, voilà, où ça se situe d'un point de vue de la réflexion sur l'existence. Comme tu disais, les autres, c'est sur des personnages vieillissants. Les autres films, c'est sur des personnages vieillissants, souvent en crise existentielle. Et là, j'ai l'impression que la crise existentielle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe avec ce personnage.
Moi, j'ai l'impression que justement, ce que tu dis, c'est ce que j'essayais de dire, c'est que c'est à la fois tout et rien. À la fois, cette discussion-là, pour moi, justement, si on repart juste sur la discussion de la dispute entre Berlusconi et sa femme... Et ben pour moi, ce que j'y ai vu, enfin la réflexion que j'y ai vue, c'est que en fait Berlusconi c'était à la fois Silvio là qui veut s'amuser, etc., et à la fois sa femme qui est mortellement ennuyée, qui pense à la culture mais qui est plus la femme qu'elle était avant, etc. Et c'est ce que j'ai vu moi pendant tout le film en fait. Enfin c'est la conclusion que j'ai tirée, c'est que il est tout. et que les personnages sont tout. La jeune fille qui est au milieu de la fête, etc., elle est à la fois comme les bimbos qui se droguent et qui dansent et qui sont là pour gratter des places dans les films au cinéma dans lesquels elle veut jouer, et à la fois elle a l'âge de Berlusconi, elle est deg et elle est fatiguée par la vie, et j'en perds mes mots. Mais c'est l'ensemble qui donne la vérité sur... c'est l'ensemble qui crée la réflexion existentielle, tu vois.
Mais c'est ça qui est très fort, cette impression qu'on peut décrire comme étant, on a l'impression de tous être dans sa tête, c'est que... c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une Italie, et qui plus est dans un microcosme qui est vraiment polarisé par ce personnage, comme l'Italie a vraiment pu l'être, et c'est ce qu'essaye de dépeindre Sorrentino, avec cette séduction absolue. Et une séduction qui, du coup, est à la fois l'objet de la caméra, et vraiment ce qui est filmé, mais en même temps, c'est aussi la substance de l'image. Parce que vraiment, le tout tient par cette séduction que Berlusconi opère sur la caméra elle-même, avec tous ses regards caméra, avec ses plans-séquences qui tournent autour de lui, cette séquence au téléphone, là où il appelle la fameuse ménagère, enfin vraiment, et il y a cette séduction vis-à-vis d'un personnage qui est pourtant le sommet du dégoûtant, et il y a cette viande jusqu'au dégoût, enfin je veux dire toutes ces fesses qu'on voit pendant ce film, c'est abominable, enfin je veux dire, non mais ça fout la gerbe à la fin, quoi. Et il y a d'ailleurs une séquence d'un coup la lumière devient un peu rouge, presque boucherie, enfin et donc il y a ce mystère de cette séduction qui malgré tout opère avec Tony Servillo, extraordinaire comme souvent, qui se dédouble même, ça irait dans le sens de ce que tu dis Maë, et il y a ce côté, cet attrait-là, un peu morbide. Et puis ce qui continue quand même à faire la force du cinéma de Sorrentino, justement, c'est qu'il est dans le pur cinéma. Enfin, c'est que cette fascination, cette façon d'affronter le personnage, ça passe par le regard, qui est le regard, son regard à lui, au Berlusconi, et puis le regard de tout le monde autour de lui. C'est toujours des regards très très forts dans la caméra. Et puis ça passe par l'image, par le cinéma. C'est-à-dire que il se contente pas seulement de filmer ce qu'il raconte, mais vraiment la façon dont il filme est déjà un objet lui-même. Ce que je veux dire, c'est que on filme cette espèce de superficialité absolue aussi avec une image complètement superficielle. On sent bien que Sorrentino a déjà réalisé quelques pubs et quelques clips dans sa vie et qu'il réutilise tout ce qu'il a appris à cette occasion, mais il y a du... Enfin, ça ressemble un peu au travail que fait Nicolas Winding Refn dans ses derniers films avec... Oui, vraiment, on est dans une pub à certains moments avec ses couleurs ultra saturées et ses lumières... plastique, il y a ce clip de campagne qui apparaît en plein milieu, le moment où il essaye de convaincre les sénateurs, il y a les chiffres qui s'affichent comme ça, une espèce de gadget, mais qui alors qu'il pourrait faire gadget et retirer quelque chose au film, j'ai l'impression que justement il souligne le sujet en renforçant cette impression de malaise fasciné qu'on éprouve.
Oui, mais j'arrive pas à déterminer le moment où en fait il va pas trop loin, c'est-à-dire que, enfin tu disais il y a ce mystère effectivement de l'attraction de Berlusconi, ce mystère qu'on retrouve dans les images, ces espèces d'images qui hypnotisent, mais je me demande à quel moment il bascule pas dans un truc un peu christique de la chose et qui du coup perd, enfin fait que le film s'effondre un peu sur lui-même, quoi.
Je suis d'accord qu'il y a un côté politiquement douteux au film. Entre autres, la façon dont est mise en scène le drame à L'Aquila, dont on sait quand même que c'était un peu les summums de l'hypocrisie berlusconienne. Et en même temps, on voit bien que Sorrentino essaye de se débattre avec ça, avec la scène initiale et finale qui rappelle un petit peu le drame, et puis toute la confrontation avec sa femme. Est-ce que c'est réussi? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est pas juste pour se dédouaner un peu parce que c'est pas l'objet du film? Bah peut-être que c'est précisément ça. Et il y a certainement une maladresse sur cet aspect-là, mais je pense vraiment que finalement c'est pas tant le sujet qui revient finalement à ces deux grands thèmes qui traversent son œuvre, c'est la modernité, y compris formelle, et puis la vieillesse de ses personnages, et je trouve ça assez éloquent de voir qu'alors que jusqu'ici on avait un personnage comme dans La Grande Bellezza qui était mal en société et se retrouvait face à son désespoir existentiel, placé au milieu de cette grande beauté de la ville, Rome, etc., et dans le silence et dans ses musiques religieuses. Et là, maintenant, on a un personnage qui se retrouve seul, dans un film où pendant 2h38, il est accompagné. D'ailleurs, c'est dit à un moment, il ne peut pas être seul, ce personnage. Et cette solitude, en plein au milieu des autres, est en effet peut-être une forme de... Oui, bah, c'est là le point de non-retour, dont tu parlais au début, quoi. Bon, est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va le revoir? Il faut que je le revoie pour savoir si ce que c'est ce film. Enfin...
Oui, si, il faut aller le voir.
Moi, je pense qu'on peut se contenter des 40 premières minutes.
Ah, il y a des gens qui s'en sont contentés d'ailleurs, qui sont partis.
Non, plus sérieusement, je pense que ça peut valoir le coup de le voir, mais vraiment, ça a été une telle déception par rapport à La Grande Bellezza, par rapport à...
Mais ça dit la même chose que La Grande Bellezza.
Oui, mais justement, c'est un chef-d'œuvre de ça façon dit la même chose, moins... mais ça le dit mal.
Ça le dit très correctement.
Ça le dit différemment. Je pense là, on va pas se battre.
Voilà,
mais clairement, La Grande Bellezza est un clair chef-d'œuvre. Enfin, je veux dire, c'est un film qui restera dans les meilleurs films de cette dernière décennie. Point. Là, il y a du débat, mais c'est peut-être l'intérêt de ce film.
Peut-être.
Et pour la deuxième partie de cette émission, coup de projecteur sur le festival Interférence Festival de documentaires de création qui se tient du 7 au 17 novembre à Lyon et dans ses environs. Nous avons rencontré Pascale Bazin, coordinatrice du festival. Pascale Bazin, bonjour. Vous coordonnez le festival Interférence. Ce festival Interférence, du coup, c'est quoi? Alors, est-ce que vous pouvez nous le présenter brièvement?
Alors ce festival qui est porté par une asso qui s'appelle Scène Publique et une asso de citoyens qui est organisée en collégial et qui ambitionne dans le fond au travers du cinéma documentaire de création de venir questionner les enjeux de recherche et les enjeux ou les problématiques qui se posent dans la société civile aujourd'hui. Avec un mode de délibération, de dialogue avec l'ensemble de ses protagonistes. Donc c'est aussi ça l'enjeu de ce festival, c'est à l'issue des séances de pouvoir ouvrir des débats avec la société civile, avec des gens de l'image, les gens de la production, et puis des chercheurs de domaines de recherche assez multiples. Après, effectivement, l'idée d'être implanté sur Lyon nous amène à co-construire avec un ensemble de lieux qui est en cohérence aussi avec notre démarche politique, qui est d'être dans l'image, d'être dans le monde de la recherche et dans la société civile. Alors c'est pour ça qu'on se retrouve dans des universités, dans des amphis, dans des salles de cinéma, dans des associations, des lieux culturels. On pourrait possiblement être aussi, l'année dernière, on était dans des lieux insolites, hein. Donc l'idée, elle est aussi comment ces espaces de parole et la diffusion du documentaire peut être dans la multiplicité des lieux de vie, des lieux d'enseignement, des lieux très culturels, dans l'idée de faire dialoguer un peu tous ces publics sur ce qui nous concerne, nous, dans notre société, ce qui agite l'opinion publique, et puis amener un peu la diversité de ces publics à réfléchir à des questions importantes. Alors on parle de famille, on parle de parentalité, ou on parle d'autres choses, des sujets qui sont importants aujourd'hui.
Alors justement, je vois que le festival donc, a commencé mercredi, avant-hier. Il est organisé en quatre parcours, intime universel, sans mode d'emploi, le meilleur des mondes et vie suspendue. À quoi ça correspond ces parcours, cette structuration? On voit les films répartis comme ça sur le programme.
Alors c'est un peu une idée de poser un peu une au lieu d'être dans une programmation très hétéroclite, d'être dans des parcours où on peut venir à une séance et elle va faire écho à une autre. Donc si on est intéressé par un sujet, comment on peut continuer l'aventure sur un autre temps du festival? C'est vraiment sur ce principe d'avoir un peu un tracé, des lignes qui permettent aux spectateurs de, certes, les inviter à revenir, hein, mais d'évoluer aussi sur un sujet sous des angles nouveaux, différents, avec une filmographie qui va changer, et surtout aussi dans des espaces différents. Donc de se balader d'une salle de cinéma à un amphi, et tout ça, nous, pour nous, est important, dans le fait de brasser les publics, qui prennent aussi l'habitude... pour beaucoup d'aller dans des amphis, hein, d'université, il y en a, ils n'ont jamais mis les pieds là-dedans, hein. Au même titre les étudiants qui vont dans des lieux culturels. Donc c'est vraiment cette idée-là, et puis de cheminer aussi sur un sujet. C'est-à-dire à un moment donné, là on est sur des questions migrants, peut-être ça va faire sens aussi avec des collaborateurs qui sont trans et qui font tout un festival aussi en région. Donc voilà, c'est aussi créer des pistes et des liens. On est aussi des passeurs, donc c'est vraiment ça aussi le principe, que les choses ne s'arrêtent pas à ces 10 jours, hein, mais les histoires continuent, et puis la réflexion aussi, et on est un peu dans cet esprit.
Alors à titre d'exemple, qu'est-ce qu'il y a par exemple dans les jours qui viennent comme exemple de thème qui serait abordé, puis comme projection, avec éventuellement quels invités pour présenter les films?
Alors, dans les jours qui arrivent, bon, il y a un peu ce soir sur la question des intérimaires du nucléaire, hein, qui fait sens aussi à ce qui se passait entre midi et deux aujourd'hui, hein, qui était sur les ondes électromagnétiques, qui est un peu toute cette, disons, la dangerosité de certaines industries aujourd'hui et, dans le fond, une dimension invisible que le citoyen n'arrive pas à se saisir. Et de comment des gens concernés sont venus raconter un peu ces histoires-là. Donc c'est un peu déjà un parcours. Il y a tout ce qui est autour du cinéma ethno et d'un regard un peu spécifique sur le cinéma expérimental. Donc ça, c'est vraiment toute la journée du samedi 10, qui est aussi une collaboration avec le collectif Météorite, qui vont nous aider à un peu explorer ce cinéma expérimental, hein. Il y a d'autres parcours aussi qui sont autour de la question qui est donnée à la parole des hommes sur la question de l'IVG et de quelle réalité, cette réalité, comment ça va concerner des jeunes hommes, et qui fait écho avec un autre rendez-vous qui s'appelle la famille XXL, qui est à un moment donné comment des enfants nés de couples homosexuels ont des choses à dire. Alors ça, c'est une scène qui se passe en Belgique. Qu'est-ce que ces jeunes ont à dire sur... des gens qui ont été dans la rue en France et qui pensent que ces jeunes-là sont perdus, hein, qui sont des pauvres enfants, et eux se revendiquent d'avoir eu une jeunesse tout à fait ordinaire par rapport à tous les autres, quoi. Voilà, donc ça, c'est un parcours. Et puis, également, on a des choses autour de migrants, bien évidemment, avec une double entrée qui est... Exilé, qui va se passer mardi 13 novembre à 14h, qui est l'art de l'oubli en Europe, de qui ont été les exilés d'hier et comment les Européens ont énormément bougé, hein, se sont déplacés pour des raisons diverses, hein, et qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui de notre capacité à accueillir dans ce même territoire qu'est l'Europe, et qui va faire écho aussi avec mardi 13 novembre à 20h30 au Cinéma Lumière, un rendez-vous autour des jeunes mineurs, migrants. Et là, la scène, elle se passe en Italie du Sud, un centre d'accueil fermé, qui accueille des jeunes mineurs, qui va fermer. Et là, une poignée de jeunes issus de plein de pays du monde se retrouvent là, et c'est autant l'errance de ces jeunes, mais aussi c'est une jeunesse qui a des choses à dire et qui fait très écho à notre propre jeunesse, hein. Donc c'est aussi comment le cinéma, il nous rapproche sur une manière de... Voilà, c'est pas les autres et ailleurs, mais ça nous parle dans une jeunesse qui a les mêmes caractéristiques que la nôtre, quoi.
Alors en parlant de jeunesse qui a quelque chose à dire, le festival s'accompagne aussi d'un concours de documentaires de création qui est organisé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors cette année, il y a deux compétitions. Il y en a effectivement du documentaire de création, et puis il y a une compétition autour des images pour parler de science. Donc il y avait une vraie volonté là de redynamiser ou au moins faire un appel d'air sur des documentaires qui parlent de sciences dures, parce qu'il y a un vrai déficit de production en France de ces questions-là, alors qu'elles sont importantes à débattre. Et ces deux compétitions sont sur des jours consécutifs, hein, c'est le jeudi 15 et vendredi 16. Toute la journée, c'est une des diffusions sur le campus de Bron, à l'amphiculturel. Et là, l'idée, c'est un peu le haut du panier de ce qu'on a reçu. On en a reçu pas loin de 400 de films, documentaires, en moyenne tout du long métrage. Donc ça, c'est pour nous ce qui a retenu notre attention et qui est à soutenir dans du film important, intéressant, qui fait du cinéma et qui questionne les enjeux de recherche aujourd'hui. Donc on est sur une proposition et des jurys constitués, et en l'occurrence sur le documentaire de création, il y a un jury étudiant de Lyon 2 qui est constitué, qui a été constitué par l'asso Kinox, asso d'étudiants de Lyon 2. Et tous ces gens, trois jurys en tout, vont remettre des prix et remise des prix le samedi soir 17 au Périscope à 20h30 avec une soirée fort sympathique autour du court-métrage. Donc voilà, qui rendra compte un peu des délibérations de ces jurys et de quelle nature ont été leurs choix.
Alors finalement, on parle justement de documentaire de création tout à l'heure. C'est quelque chose qui pourrait presque paraître naïvement un peu un oxymore. Là, est-ce que la création, ça ne serait pas juste la fiction? Alors quelle est la place justement aujourd'hui et l'importance de ce documentaire de création qui est quand même toujours un petit peu en retrait dans l'image et aussi dans la distribution du cinéma, mais qui a toujours revêtu quand même une importance cinématographique cruciale.
On peut résolument dire que c'est une production confidentielle, hein, même s'il y a des choses qui arrivent à Cannes, et heureusement. Effectivement, le cinéma documentaire est énormément distribué dans les festivals, dans des événementiels de cette nature en France. Après, le documentaire est dit de création, ça veut dire qu'on reconnaît sa démarche d'un auteur singulier avec un point de vue, à la différence de batterie de films qu'on pourrait appeler très télévisuel, didactique, où on va vous expliquer parce que vous ne comprenez pas bien, ou des films très historiques. C'est-à-dire que la télévision en est un gros producteur et un gros distributeur, diffuseur. Et puis, il y a tout un panel de films d'auteurs plus confidentiels qui ont la vertu de rendre compte du réel. Donc, c'est aussi des réalisateurs qui vont, sur des temps assez longs, s'installer sur un terrain avec des gens pour raconter une histoire. Et cette histoire, elle est en prise avec des réalités, avec des gens dans leur ordinaire, dans leurs revendications. Donc c'est pour nous important, si on veut approcher les questions scientifiques et de société, d'être sur ce terrain-là, parce que ce cinéma d'auteur a toutes les chances de nous toucher, de nous mettre au travail quelque part d'une réalité qui nous concerne. À la différence de la fiction qui a toute sa qualité, hein, mais qui va nous emmener dans un rêve quelque part, une histoire où on en est très souvent très éloigné, mais qui est un vrai plaisir. Mais à la différence du documentaire, quand c'est un documentaire comme on avait entre midi et deux sur la question des ondes électromagnétiques et comment le cinéaste s'est cassé la tête à se dire comment je vais vous rendre compte de qu'est-ce que ça fait que ces ondes dans la tête des électrosensibles, et ben comme je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer autrement que par un travail graphique, artistique, d'image dans ce film. Donc c'est une performance. Elle a bien l'intention de nous rendre compte par des témoignages de gens électrosensibles de leur réalité et un travail graphique, dessiné à l'image de qu'est-ce que c'est que cette... l'impact dans la tête des gens de ces ondes. Voilà, donc, et tout le long du festival, on va avoir effectivement la réalité de gens qui nous racontent leur vie Et que pour nous, le pari, c'est que cet ordinaire-là, dans ces films, va parler à notre propre existence individuelle. Donc c'est ça le pari de la proximité. Et parce qu'il y a de l'humanité dans ces personnages, dans ces récits, ça a des chances de nous concerner. Donc voilà, nous, on fait ce pari-là, que ce cinéma-là va venir bouleverser, interroger, questionner, déplacer l'auditoire.
Notre monde donc social et scientifique mis en lumière par l'image et le cinéma, c'est donc dans le festival Interférence et c'est jusqu'au 17 novembre dans plusieurs lieux donc tout autour de Lyon. Merci beaucoup. Enfin, comme chaque semaine, on termine avec quelques suggestions de sorties au cinéma cette semaine. Et la sortie que nous vous proposons d'aller voir cette semaine, c'est The Spy Gone North de Yoon Jong-bin. Nous sommes à Séoul en 1993 et un ancien officier est engagé par les services secrets sud-coréens. Il est chargé de collecter des informations sur le programme nucléaire en Corée du Nord et il infiltre donc un groupe de dignitaires de Pyongyang. Film d'espionnage donc dans la veine de ce cinéma coréen qu'on aime tant et qui sort cette semaine en salle.
북추천에서 지금도 핵 개발 중이냐 물었어. 이미 핵을 가졌습니다. 이제 자네가 북한 권력 중으로 침투해 그들이 어떤 일을 일으킬지 알아봐줘야겠어. 평양이 무너지는 날, 대동강에서 다시 만날 그날까지.
L'événement cette semaine, il est également centré sur le documentaire, donc en plus du Festival Interférence dont nous venons de parler. Et ça sera dans le cadre des rendez-vous du documentaire du Lumière Bellecourt. Ce sera ce mardi 13 novembre à 18h45, donc au Bellecourt, où sera projeté Human Flow d'Ai Weiwei, film donc sur les migrations dans le monde. Plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays pour fuir la famine, les bouleversements climatiques et la guerre. Ce film aborde donc l'ampleur catastrophique de la crise des migrants, des crises des migrations et ses terribles répercussions humanitaires.
The officials came here and told them, look, there's no way you're going to get papers to continue. Either you go voluntarily or we arrest you.
Enfin, un film du patrimoine à revoir ou bien peut-être à voir cette semaine, ça se passe à l'Institut Lumière comme souvent, dans les derniers jours du best-of du Festival Lumière. Et donc, vous pourrez voir Barbarella de Roger Vadim avec Jane Fonda, prix Lumière cette année. Alors, qu'est-ce que c'est que ce célèbre ovni cinématographique? Eh bien, en l'an 40 000, le monde vit une période de paix et d'amour. Mais craignant un danger, le président de la Terre demande à Barbarella, astronaute émérite, de partir à la recherche de Durand Durand, inventeur de l'arme totale disparue il y a quelques années, dans cette espèce de parodie de film de conquête spatiale, et surtout connu pour étant un grand summum de l'érotisme au cinéma avec le très célèbre générique que vous pourrez donc découvrir ou redécouvrir à l'Institut Lumière, pardon. Ça sera mercredi prochain, le 14 à 21h.
Do you have any pills?
Pills?
Oh, never mind. I have some here.
What is this pill?
It's an exaltation transference pellet, of course.
I know nothing of this.
I see. Well, on Earth, when our psychocardiogram readings are in harmony and we wish to make love, as you call it, we take an exaltation transference pellet and remain like this. Here, let me show you.
Enfin, on ne se quitte pas sans le conseil ciné des cinémas Lumière avec notre camarade Flavien Poncé.
Alors le conseil d'aujourd'hui, ce sera Yomedin, qui est un film qui donne d'excellentes nouvelles du cinéma égyptien. C'est le premier film d'un jeune auteur, Aboubakar Chowki, qui évoque aussi une grande tradition du cinéma africain d'une façon générale, notamment le personnage principal du film. Pour ceux qui connaissent les origines du cinéma africain, ne peut pas ne pas penser à Borom Sarat, le film de Ousmane Samben. C'est un film qui est l'histoire d'un homme d'une quarantaine d'années, lépreux, qui se lie d'amitié avec un jeune garçon, qui tous les deux vont partir sillonner du coup les routes d'Égypte. Et c'est un film qui justement évite tous les écueils du misérabilisme en choisissant le genre du buddy movie et du road movie. Et tout ça, ça nous permet de découvrir aussi ce que c'est l'Égypte d'aujourd'hui au contact de ces personnes qui sont vraiment considérées comme moins que rien et qui sont resplendissantes de vie, qui chacune à leur manière sillonnent l'Égypte contemporaine pour se reconstruire eux-mêmes. C'est un film qui est dans un ton très très réaliste, qui peut faire penser à ceux qui l'ont vu à Capharnaüm et qui sera en avant-première au Lumière Terreau le lundi 12 novembre à 21h et qui sortira en salle le 21 novembre. Voilà, c'est Yomedine.
Okay, soldier. I'm coming out. Okay, soldier. I got no gun and I'm coming out. Soldier.
Vous écoutiez le 103e numéro de D'étoiles plein les yeux avec cette semaine Maë Burla, Occitane Lacurie, Rémi Cerda. On se retrouve bien sûr dès la semaine prochaine, ce sera avec High Life de Claire Denis. D'ici la bonne semaine à toutes et à tous dans les salles obscures et puis n'hésitez pas à réagir à notre avis sur les films sur la page de l'émission ou sur notre page Facebook. À bientôt.
I want you to calm down.